Bienvenue à notre série de messages depuis le début de l'année jusqu'à dans quelques semaines, jusqu'à Pâques. Nous suivons Jésus dans les évangiles, suivre Jésus. Et les deux derniers messages de la série, suivre Jésus, vont être sur suivre Jésus, c'est penser comme Jésus, avoir les pensées de Christ. Nous allons aller jusqu'à Pâques avec ce message. Je vais prendre l'opportunité, non seulement pour vous ici, mais pour les milliers qui nous suivent en ce moment en Facebook Live. Si vous êtes dans la région du Grand Montréal ou de la Rive-Sud, je veux vous inviter à notre super week-end de Pâques. C'est dans quelques semaines à peine, 19, 20 et 21 avril. Nous allons avoir sept célébrations pendant le week-end. Nous attendons, nous prions et nous allons rassembler plus de 8000 personnes la fin de semaine de Pâques. Combien croient que le cœur de Dieu prend plaisir de voir au Québec 8000 personnes réunies à Pâques, pas autour du chocolat ou n'importe quoi d'autre, autour de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Le plus grand rassemblement chrétien au Canada va être ici. On va avoir deux rassemblements le vendredi saint à 4h30, 16h30. L'année passée, les deux étaient remplis parce que des églises de l'ACF viennent partout à travers le Grand Montréal également. Alors, rassemblement du vendredi saint à 16h30 et à 19h30. Toute l'équipe de créativité prépare toutes sortes de choses extraordinaires. La chorale, il va y avoir des présentations audiovisuelles. Il va y avoir toute une chorale spéciale, communion spéciale, message de feu et également... deux réunions donc le vendredi saint, Noah Vidal samedi soir, deux réunions le dimanche matin de Pâques à Longueuil et aussi à La Prairie. Et le dimanche matin de Pâques, nous allons lancer, vous savez, une des grandes choses qui prend place à chaque année, c'est que des centaines de personnes de vos familles, vos amis que vous invitez pour Pâques, viennent à Pâques, viennent à Noël, et nous voulons qu'ils viennent après, qu'ils puissent entendre au-delà de l'événement de Pâques. Et cette année, le Seigneur a mis sur mon cœur un message qui va commencer le dimanche matin de Pâques. Je vais commencer une nouvelle série qui va être pour tout le mois de mai et tout le mois de juin qui s'appelle « Les quatre promesses de la résurrection ». Alors, on va inviter, commencer déjà, vous avez deux semaines pour inviter tout le monde à dîner. C'est ce que mon épouse et moi, on fait, inviter les familles à dîner l'après-midi de Pâques, à venir à la maison, à venir à la réunion le matin. Et ce matin-là, on va lancer une série « Quatre promesses de résurrection ». Les quatre promesses de la résurrection qui vont durer pendant tout le mois de mai et tout le mois de juin. On va avoir le dimanche matin de Pâques, j'ai un message illustré, une présentation très spéciale, chorale bien sûr et tout ça, mais surtout un message, nous voulons que des centaines de nouvelles personnes découvrent, comme nous on a découvert, que Pâques, c'est pas un événement historique dans le passé, c'est surtout pas juste un dimanche, une fois par année. La résurrection, Jésus veut qu'on la vive à chaque jour de l'année et il a des promesses qui vont changer des vies. Alors combien, juste avant d'applaudir, combien s'engagent dans leur cœur? Vous dites, j'ai deux semaines, trois semaines devant moi. Combien s'engagent dans leur cœur à inviter quelqu'un de spécial, inviter des gens pour le dimanche de Pâques? Et on veut voir, vers le mois de juin, on va avoir notre deuxième baptême d'eau de l'année et nous voulons voir des dizaines et dizaines de nouvelles personnes qui sont entrées dans la résurrection. Est-ce qu'on peut, en pleine face de l'ennemi, en pleine face des ténèbres, est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu va faire à travers les quatre promesses de la résurrection? Pour les deux derniers messages de notre série... J'ai un message sur mon cœur pour les deux derniers messages de cette série. Suivre Jésus, une dimension. C'est comme si Dieu mettait sur mon cœur cette pensée de next level au niveau de notre foi chrétienne, que suivre Jésus, c'est aussi penser comme Jésus. Le prophète, pas juste penser à Jésus une fois de temps en temps, penser comme lui, avoir ses pensées. La Bible dit « Comme un homme pense, comme une femme pense, ainsi sera-t-il ou ainsi sera-t-elle que nos pensées vont dicter nos motivations vont dicter nos actions, nos comportements, nos décisions en toutes choses. » Et suivre Jésus, c'est penser comme lui. Et le prophète Ésaïe, et avant la venue de Jésus-Christ, annonçant la venue du Seigneur et des centaines d'années auparavant, en Ésaïe 40, a émis cette pensée qu'on retrouve dans l'Ancien Testament souvent. « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui peut lui dire quoi faire? Qui peut connaître ses pensées? » Et l'apôtre Paul, après la vie, le message, l'exemple, la mort et la résurrection de Christ, et maintenant par l'Esprit de Christ qui vit en nous, reprend cette parole d'Ésaïe, car qui a connu la pensée, en 1 Corinthiens 2,16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui peut dire à Dieu quoi faire? Mais il ajoute, or nous avons la pensée de Christ. que suivre Jésus, c'est le suivre le Seigneur, les principes de Jésus, la parole de Jésus, le pardon de Jésus, sa passion, ses priorités, c'est le suivre dans sa puissance. Mais suivre Jésus, c'est penser comme Jésus. C'est littéralement penser comme lui. Suivre Jésus, c'est beaucoup plus qu'une confession. J'ai confessé que je crois. C'est beaucoup plus qu'une certaine croyance, une certaine connaissance. C'est certainement infiniment plus que d'être un chrétien caméléon. Un caméléon qui prend un peu la couleur de son entourage. Il y a beaucoup de chrétiens caméléons d'une certaine manière à l'église, mais au travail ou à l'école ou ailleurs, je prends la couleur du monde autour de moi. Non, suivre Jésus, c'est plus qu'être un consommateur, un caméléon, une confession, une certaine croyance, certaines connaissances. Romains chapitre 12, 1-2 nous dit, nous rappelle c'est quoi suivre Jésus. Il nous rappelle que c'est impossible sans le renouvellement de nos pensées. Sans que ces pensées, les pensées de Christ deviennent les miennes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, regardez l'ampleur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme Jésus s'est offert maintenant en nous, ma vie entière offerte à lui. Et ça va être un sacrifice vivant, saint, séparé, pur, intègre, agréable à Dieu, qui sera ce qui sera de votre part, pas un exploit hallucinant pour quelques élites, non, ce qui sera de votre part un service raisonnable, un culte raisonnable. C'est ce que suivre Jésus signifie, que je vais, ma vie devient, ses pensées deviennent les miennes et ma vie devient une offrande devant lui. Et comment? En ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés, pas conformes, transformés, par le renouvellement de vos pensées. Dites à voix haute avec moi, le renouvellement de mes pensées. Afin que vous discerniez, afin que tu puisses savoir, connaître, agir, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfaitement lui. Suivre Jésus, c'est penser comme Jésus. Et le texte nous dit que ses compassions sont là pour plus, sont là pour plus qu'un christianisme de crucifix. Non, ils sont là afin que littéralement on puisse changer de conformité. Cette semaine, il y a le débat partout. Est-ce qu'on va enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, etc., etc. Au-delà de toutes les choses politiques, et est-ce que c'est un patrimoine religieux qu'il faut conserver versus... laissez-moi vous dire ceci, ça représente quelque chose. Spirituellement, le crucifix en haut de l'Assemblée nationale représente quelque chose. Une province entière qui veut garder le crucifix là, mais qui dans tout le reste de ses débats de ce qui se passe sous le crucifix ne le concerne pas du tout. Ne s'intéresse pas à Christ, ne pense pas à lui, n'ont pas ses pensées, n'ont pas ses... Et partout au Québec, il y a des chrétiens, et j'oserais dire, c'est un portrait d'un certain christianisme où j'ai un crucifix, où j'ai le porte-au-cou, où j'ai un collant sur mon pare-choc de voiture, où je connais quelques versets, mais Dieu veut t'amener infiniment plus loin que le christianisme du crucifix. Ce que Dieu appelle un service raisonnable doit devenir mon standard à moi et ma recherche, son standard à lui. Ses pensées, ses priorités doivent devenir ma poursuite. Il n'y a pas de témoignage qui lui plaise sans des transformations dans nos vies en profondeur et des transformations perpétuelles offrant ta vie comme un sacrifice vivant par le renouvellement de tes pensées. Alors la question, première question de l'esprit ce matin, est-ce que tu continues à laisser Dieu te transformer? Est-ce que tu continues à le laisser transformer comment tu penses? Comment tu agis dans chaque aspect de ta vie? Je ne peux pas me rapprocher de ses plans sans le renouvellement de mes pensées. Suivre Jésus, c'est infiniment plus que parler de Jésus. C'est plus que penser à Jésus une fois de temps en temps. Je pense à toi, Seigneur, puis aide-moi avec ça. Puis... Non, suivre Jésus, c'est d'être renouvelé. Il y a un renouvellement qui prend place où j'en viens à penser. Pouvez-vous juste une seconde? Moi, la potentialité de ça me faisait crier. Ça bouillait dans mon esprit, la pensée. Imagines-tu la révolution spirituelle qui prendrait place au Québec? C'est les centaines de milliers de chrétiens évangéliques du Québec qui se mettaient à penser comme Jésus, à voir comme Jésus, à aimer comme Jésus, à penser comme lui et à être transformé à son image. Penser comme Jésus. Je ne peux pas suivre sans penser comme lui. Alors, on va regarder ensemble dans ce message. Ça va des paroles de Jésus pendant ce message et les deux derniers messages, juste aller jusqu'à Pâques. Les derniers messages vont être, qu'est-ce que c'est? Penser comme Jésus, si je sais que je suis, que lorsque je pense comme Jésus, c'est quoi penser comme Jésus pour moi? La première pensée est simple. Lorsque je pense comme Jésus, je sais qui je suis et j'ai confiance dans les plans du Père pour ma vie. Si tu penses comme Jésus, tu es renouvelé dans tes pensées, tu sais qui tu es en Dieu. Et sois confiance dans ses plans pour ta vie. Je sais qui je suis. Il y a plusieurs films modernes, vous allez les voir sortir sur les écrans, dans les reprises de films qui ont été faits dans les dernières années, où il y a toujours comme une version d'un Jésus qui est torturé dans ses pensées. Il est confus, il n'est pas sûr. Jésus n'a jamais été confus sur son identité. 11 fois dans le Nouveau Testament, il va se décrire, il va dire « Je suis, voici qui je suis ». Regardez un texte ce matin, notre texte de départ, Jean chapitre 6, et au verset 35. « Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Allez au verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien. » Suivre Jésus, lorsque je pense comme Jésus, je sais qui je suis et j'ai confiance en ses plans pour ma vie et j'ai une poursuite continuelle, une poursuite farouche de ne rien perdre de ce que Dieu m'a confié et m'a appelé à accomplir. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui, est la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Lorsque penser comme Jésus, lorsque je pense comme Jésus, je suis renouvelé dans mes pensées et je marche avec une saine connaissance de qui je suis et de ce que Dieu m'appelle à être et à faire. Je marche avec un sens que je ne laisserai pas l'ennemi me voler. Je ne perdrai rien. Toute la semaine, ça reste dans mon esprit. Je ne perdrai rien. Ça fait près de 40 ans que je marche avec Dieu et dans les prochaines années que Dieu me donne, dans les prochains 30-40 ans que Dieu me donne, dites amen, 30-40 ans. Dans les prochains 30-40 ans que Dieu me donne, minimum, prochains 40 ans que Dieu me donne, je ne veux rien perdre de ce qu'il m'a confié. Je suis qui je suis en lui et je vais accomplir tout ce que je suis appelé à faire. Faites-vous dire amen. Réveillez-vous un instant et dites à la personne près de vous, je veux rien perdre. Dites à la personne près de vous, je ne perds rien. Question. Est-ce que j'ai diminué ou arrêté de chercher ses pensées, son plan? Est-ce que j'ai arrêté de poursuivre les « je suis » dans ma saison actuelle? Est-ce que j'ai laissé le passé ou un présent qui est douloureux? Des paroles ou des paroles de d'autres personnes qui ont été prononcées sur moi, des perspectives culturelles, sociales, familiales. Est-ce que j'ai laissé ça déterminer qui je suis et qui je vais être? Parce que ce clash-là, avez-vous vu le clash dans le texte? Je suis celui qui a été envoyé du Père. Le Père a une volonté pour moi. Je ne veux rien perdre de ce que le Père a préparé pour moi. Je suis descendu du ciel. Comment descendu du ciel, t'es le fils de Joseph et Marie? Le clash entre l'appel du ciel sur nos vies et la perspective humaine sur nous. Voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là, lui, descendu du ciel? On l'a vu grandir. C'est le fils de Joseph et de Marie. Comprenez bien, ce clash, cette confrontation existe toujours pour chacun d'entre nous qui désirons suivre Jésus. La perspective des hommes sur moi, la perspective de mon passé, de moi-même, de ma famille, des gens, de ma culture et la perspective céleste de ce que je peux devenir en Dieu. Penser comme Jésus, c'est choisir à chaque jour la perspective de Dieu et notre identité dans celui qui nous donne le pouvoir de devenir le « je suis » qu'il veut que je sois aujourd'hui. Littéralement, quel que soit, il y a tellement d'arrière-plan qui sont tellement de gens d'arrière-plan qui sont ici, les choses ont été mises sur vous, les circonstances qui ont été mises sur vous. T'es juste le fils de, C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose pour moi ce matin qui est théologique seulement. J'étudie un texte intéressant. C'est une histoire de vie. Jésus était descendu du ciel dans une mission divine. Je ne parlais rien de ce que Dieu m'appelle à être et à faire. Puis eux voulaient le réduire à être le fils de. T'es juste le fils de, juste le fils de, du charpentier, juste le fils de. Je sais quoi être le fils de. Je sais quoi, grandir en étant le fils de. Le fils de, d'un père qui était lui-même troisième génération et lui-même. Je sais c'est quoi d'être le fils du père bipolaire, le fils du père alcoolique au dernier degré, le fils du père qui ment et qui déçoit et qui n'est pas capable de garder même un emploi et qui brise et qui quitte et qui déchire. Je sais c'est quoi marcher avec, et c'est pour ça que je chante avec vous à chaque dimanche devant Dieu, je chante « Non plus esclave de la peur, non plus esclave de mon passé, je suis enfant de Dieu, je suis le fils de mon père. » Quelqu'un devrait dire « Amen ». Lorsque je parle, pense comme Jésus pense, je suis capable de dire sans arrogance « Je suis. Je suis. » 11 fois, il a dit, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Je suis le Christ, le seul sauveur, le Fils de Dieu que vous verrez assis à la droite de la puissance de Dieu et venant des nuées du ciel. » Il dira même, Jean 8, versets 12 à 14, « Car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. » I love that. Je sais d'où je suis venu, mais je sais où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je m'en vais. Dites à quelqu'un près de vous, tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas tout ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas tout ce que j'ai passé. Tu ne sais pas tout ce que j'ai pu passer. Mais tu ne sais pas non plus où je m'en vais sous la main de Dieu, sous la direction de Dieu. Je suis celui. Et ce qui est magnifique, c'est de chapitre en chapitre. J'ai pensé comme Jésus, de chapitre en chapitre. Ne limitez pas, suivez-moi, ne limitez pas votre « je suis » à ce que vous avez été hier. Dans le chapitre hier, vous étiez, mais Dieu veut que vous soyez maintenant. Dans ce nouveau chapitre de ta vie, il y a encore de nouveau « Je suis » pour toi. Encore au-delà de tout ce que tu peux imaginer, commencez-vous à sentir un peu la voix de Dieu qui dit « Ayez les pensées de Christ et dites « je suis tout, je peux tout, je suis celui que Dieu m'appelle à ». Quelqu'un devrait dire « Amen ». Je suis. Je suis. Et lorsque je pense comme Jésus, j'ai confiance dans les plans du Père. C'est tellement important parce que si je ne marche pas dans le « je suis », si je ne pense pas comme Jésus, celui qui ne marche pas dans son identité en Christ ou celle, il y a tellement de choses qui prennent place. Tellement important. Si je ne marche pas dans cette identité, je vais être esclave des limites que les circonstances ou que les autres ont mis sur moi. Un passé, un arrière-plan, une famille, une dépendance, un divorce, une défaite, une déception. Et même ce que les gens seulement, ce que les gens ont vu. Donc moi, je dirais de cette façon, si je ne marche pas aujourd'hui avec les pensées de Christ dans le « je suis », je deviens défini par ce qui était dans le plan de Dieu appelé à me développer. Personne ne nous emmène à ça. Ça m'a pris des heures à sortir ça. Personne ne nous emmène à ça. Est-ce que tu comprends qu'en Dieu, les choses qui ont été difficiles, si tu les remets à lui, sont là pour te développer? Mais sans ce renouvellement de ses pensées, tu deviens défini. T'es juste ça, toi, par ce qui devait te développer. Si tu ne marches pas dans le « je suis » de Dieu, si lorsque je pense comme Jésus, je sais qui je suis et j'ai confiance au plan de mon Père pour ma vie. Sinon, je vais m'épuiser. Tu vas t'épuiser à désespérément chercher à plaire aux autres. Ou à perpétuer ce que tu étais hier, alors que Dieu t'appelle à être quelque chose de nouveau et de frais aujourd'hui. À ce que d'autres voulaient que tu sois, des gens épuisés par « j'essaie de reproduire hier, j'essaie de plaire à tout le monde, tu vas être dévoré par la jalousie, par l'envie. » Lorsque tu ne marches pas les pensées renouvelées dans qui je suis, c'est ce qui je suis en Dieu, et je marche dans ses promesses pour ma vie, tu te mets à regarder d'autres, tu te mets à envier, tu te mets à être jaloux, tu te mets à te comparer. L'apôtre Paul dit, la comparaison, celui qui se compare est un insensé. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien approuvé. Marche aujourd'hui dans le « je suis » que Dieu a pour toi. Si tu n'as pas de ça, je vais être aveugle à la réalité que mon créateur de vie est mon meilleur coach de vie. Rien contre tes coachs de vie, on a plusieurs coachs ici, merci Seigneur pour chaque coach, mais le psalmiste le dit de cette manière, le meilleur coach de vie, c'est toi qui m'as formé, le psaume 139. Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tournez-vous à la personne à qui vous n'avez pas parlé encore, vous l'ignorez depuis le début de la réunion. Et dites-lui « Bonjour, je me présente, créature merveilleuse. » Dites ça à quelqu'un près de vous. Je viens de voir un petit peu d'activité s'intensifier du côté des célibataires, de ce côté-là. « Bonjour, créature merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables, parle de lui-même. Et mon âme le reconnaît bien. On n'est pas dans l'arrogance ici, on n'est pas dans la prétention. On est dans « je suis qui je suis » et Dieu a des plans pour ma vie. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Je suis, lorsque je pense comme Jésus, j'ai confiance dans les plans de mon Père. Je suis fort dans ma foi parce que c'est lui qui m'a formé. Il a préparé toutes mes destinées, alors je vais le laisser me diriger. Je dirais de cette façon, mon intensité à accomplir mon identité repose sur son immuabilité. Wow. Ah, là, vous dites « wow, ouais, c'est sûr. » Je vais le dire une autre fois à la demande générale. Mon intensité à accomplir mon identité repose sur son immuabilité. Moi, mes pensées pour qui je suis, c'est là. Mais lui, il est là. Avant que je sois, avant que je voie quoi que ce soit, il me voyait. Il y avait les jours de ma vie comptés, les œuvres de ma vie comptées. Alors je poursuis mon identité parce que mon Dieu immuable est le Dieu de l'impossible. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il me connaît mieux que personne et que moi-même. Alors, je vais le laisser me conduire. Avez-vous vu les commerciaux, du Paprio? Je ne fais pas de la publicité pour du Paprio. On a 8 agents d'immeubles de 8 compagnies différentes. Ici, vous êtes tous bénis. Tous bénis, tout le monde est béni. Tout le monde est également béni. Mais juste, avez-vous les commerciaux? Tu as besoin d'un conseil de ta petite fille qui chante. Si tu pouvais appeler Isabelle Boulay. Vous avez vu? Tu as besoin d'un conseil de coach de hockey si tu pouvais appeler Danny Dubé. Tu as besoin d'un conseil sur l'aviation, tu vas appeler Boeing. Non, c'est vrai, ça, c'est pas bon. Tu as besoin de quelqu'un pour te coacher dans ta vie. Et si on allait à celui qui a dit ton livre, dans son livre, tous tes jours étaient inscrits, avant qu'aucun n'existe, qui marche devant toi pour accomplir chaque chose de ta vie que tu ne peux même pas imaginer toi-même. Penser comme Jésus, sans arrogance, prétention, faux orgueil. C'est aussi sans cette fausse humilité qui nous vole de se laisser limiter parce que d'autres ont vu de nous. Dieu va mettre des choses dans ton cœur, puis va mettre des choses que tu n'as même pas encore pensé ou vu, mais alors que tu es renouvelé dans tes pensées, je marche, Seigneur, et je veux accomplir chaque page du « je suis » que tu m'appelles à être aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire « Amen » dans la maison de Dieu. Je fais une très petite parenthèse, mais pas petite, mais une parenthèse tellement importante pour dire à tous les parents qui sont ici, prenez plus, donnez-vous passionnément, prenez le plus de temps possible à communiquer à vos enfants au plus jeune âge possible que Dieu a un plan pour eux. Que Dieu est destiné sur leur vie. J'aime tellement la scène, vous connaissez la scène de Jésus. Jésus n'a pas commencé à penser à qui il était, à avoir des pensées de la destinée de Dieu à 30 ans, entre 30 et 30, 33 et demi, son ministère. La Bible nous dit, lorsqu'il était enfant, même à 12 ans, vous connaissez l'histoire, l'Évangile, ça nous dit qu'ils s'en vont vers la Pâque, comme nous, quelques semaines, ils s'en vont au festival vers la Pâque, comme ils faisaient en pèlerinage, ils partaient en grand groupe, c'est comme une caravane, ils partent tous ensemble, ils s'en vont à la Pâque, et alors que tout de suite se termine, ils sont plusieurs familles qui voyagent ensemble, et alors qu'ils sont sur le chemin du retour, ils s'aperçoivent de Jésus à 12 ans. Où est Jésus? C'est le « Maman, j'ai raté l'avion original ». Voyons, il est où le petit? Jésus, 12 ans. Oh! 3 jours plus tard, on revient. Il est avec toi? Hey! On revient. Il le cherche à Jérusalem pendant 3 jours. Et lorsqu'il le trouve dans le temple en train d'enseigner, tout un jeune homme, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Il parle à ses parents. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et tous les parents vont dire un grand amen. Mais ils ne comprirent pas. Est-ce qu'il y en a ici qui savent ça? Quand, comme parents, on ne comprend pas toujours. Dites aïe, aïe, amen ou quelque chose. Mais il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus savait qui il était. Jésus pensait déjà aux plans et aux promesses du Père dans sa vie. À un jeune âge, en tant que parent et maintenant grand-parent avec nos enfants adoptifs, je veux dire à tous les jeunes parents qui sont ici, une chose que je peux vous dire encore plus après toutes les années d'expérience, passez le plus de temps que vous pouvez à un jeune âge à leur inculquer que Dieu a un plan pour leur vie. Qui est Dieu? Qui ils sont en Dieu? Parents, c'est pas une affaire de légalisme. C'est pour ça que tu dois être. C'est pas à l'affaire combien de fois je vais venir. C'est pour ça que tu viens à l'église à chaque semaine. C'est pour ça que tu prends la voiture le vendredi, tu es fatigué, mais tu l'amènes à la jeunesse, tu l'amènes à l'impact, tu l'amènes aux ados. C'est pour ça que tu fermes la télé, tu passes du temps avec eux. C'est pour ça que tu soutiens l'église, si je peux dire ceci. Je rends grâce à Dieu pour tout l'investissement que vous nous permettez de faire. La vision de Nouvelle Vie n'est pas dans le flash et le spectacle. La vision de Nouvelle Vie, la raison pour laquelle tout ça est là, la raison pour laquelle nous avons plusieurs, des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de dollars à chaque année qui est investi dans du personnel, dans nos enfants, dans la ligue, dans des classes, dans la ligue, dans la super ligue, dans la zone, dans slash, dans les ministères pour les enfants, dans les jeunes familles. Nous sommes une maison pour la famille. Nous voulons que des garçons et des filles de tous les âges grandissent avec un sens de qui ils peuvent être en Dieu. Une des choses qui me bénit tellement, ce que vous réalisez, je pourrais mettre sur l'écran, la liste. Savez-vous qu'en ce moment, de plus en plus, le leadership de notre Église, partout dans tous les départements de notre Église, sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. La jeunesse, bien sûr, mais les ministères de l'enfance, la musique, le leadership dans tous les départements, Action Nouvelle Vie, au 21-59, des gens qui sont en ce moment, des hommes et des femmes, qui sont en ce moment en leadership de l'Église, étaient des enfants et des jeunes et des ados qui ont grandi dans cette maison et qui ont appris qui ils sont en Jésus. Pouvez-vous applaudir cette vision? Cette génération a besoin de parents, de chrétiens, de leaders qui vont penser comme Jésus et ne pas s'effondrer et tout balancer lorsque les épreuves viennent. Non, des parents qui vont être solidement ancrés dans la pensée comme Jésus. Dieu a des plans pour moi. Lorsque le trouble vient, Jean 12, 27, « Maintenant mon âme est troublée. » Et que dirais-je? Est-ce que je vais dire, « Père, délivre-moi de cette heure? » Non! Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel qui dit, je l'ai glorifié, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Dieu veut que je sois et que tu sois celui que lorsque les troubles viennent, l'opposition, je ne veux pas balancer mes principes, je ne veux pas balancer mes standards, je ne veux pas balancer ma foi, je ne veux pas balancer ma joie, je ne veux pas tout balancer. Non, 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 Seigneur Jésus, je marche dans tes plans et c'est pour cela que je suis ancré en toi. Je n'arriverai pas à penser comme Jésus si je n'accepte pas de prier comme Jésus. Il a prié, Père, glorifie ton nom. Est-ce que je prie encore à travers mes épreuves, mes déceptions, lorsque si on me laisse, si on me déçoit, est-ce que je prie encore, Seigneur, maintenant, là, glorifie-toi à travers ce que je vis. Glorifie-toi par mes réactions, glorifie-toi par mon pardon, glorifie-toi par ma constance, glorifie-toi, Seigneur Dieu, fais de nous, je parlais un petit peu au père et aux mères dans la foi ici, Seigneur, fais de nous une génération que les plus jeunes vont regarder et dire, waouh, je l'ai regardé traverser ça, je l'ai regardé traverser ce moment-là, je l'ai regardé traverser ça, et il n'a pas dit, ah, éloigne ça de moi, elle dit, non, Père, à travers ce que je vis, glorifie-toi, mets en moi les pensées qui étaient en Jésus-Christ, je suis qui je suis en Dieu, et le Père a des plans pour moi et ses plans vont s'accomplir en moi. Dieu s'est glorifié et Dieu va se glorifier encore. Quelqu'un devrait dire amen. Et ça, tu ne le fais pas. C'est impossible par tes propres forces. C'est impossible. Penser comme Jésus, c'est non seulement que j'apprends à faire confiance au... Je sais qui je suis, j'apprends à faire confiance aux plans et aux promesses de mon Père. Mais lorsque je pense comme Jésus, je suis toujours conscient de sa présence et je dépends de sa puissance. Pensez comme Jésus, Jean 16, 32. L'heure vient, elle est déjà venue. Tout le monde est sonné à cette heure, à un moment ou un autre. Vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il a été tenté en toutes choses afin de venir secourir ceux qui sont tentés. Jésus a connu ce que c'est que d'être trahi, d'être abandonné, d'être laissé, d'être déchiré, c'est dispersé. Mais pensant que vous pensiez que j'étais seul, il était... En anglais, on dirait « acutely ». Il était profondément conscient de la présence de Dieu avec lui et qu'il ne peut pas accomplir sa mission par ses propres forces. Lorsque Jésus dit « le Fils ne peut rien faire de lui-même », comment est-ce que moi je pourrais penser ou que toi tu pourrais penser qu'on peut accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces? Penser comme Jésus, c'est avoir un sens que le Père est avec moi. On est souvent submergé par ce qu'on considère que ceux qu'on considère qui nous ont laissés ou les choses qui nous ont déçus, mais penser comme Jésus, c'est d'être renouvelé dans le sens que le Père est avec moi. Sa présence est avec moi. Dites-le à voix haute pendant un instant. Le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Le Père est avec moi. C'est pour ça que Jésus dit, je suis conscient de sa présence, mais je dépends de sa puissance. Si vous voulez penser comme Jésus, il faut que vous pensiez à cette dimension, avec renouveler vos pensées, ce réflexe, c'est de ta puissance que je dépends. Mais Jean 5, 17, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Ce que j'agis, c'est à travers l'action du Père. » Jésus reprit la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Claude ne peut rien faire par lui-même. Daniel ne peut rien faire par lui-même. Cynthia, Hugo, mettons, non, ne peut rien faire par nous-mêmes. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Tout ce que le Père a fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera ses œuvres encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Je crois que c'est une parole qui est là depuis 2000 ans pour chacun d'entre nous, alors qu'on va dépendre de lui, de sa présence pour l'accomplir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux rien par moi-même. Il va faire des œuvres et encore plus grandes. Mais je me permets de dire ceci. Et regardez la date. On est quoi, le 31? 31 mars 2019, dans le temps de jeûne et de prière depuis le début de l'année. J'ai dans mon esprit cette pensée que cette parole, elle est pour nous en tant qu'Église. Le 25e de l'année passée, 25 ans de célébration de ce que Dieu a fait, mais je veux la répéter prophétiquement. Le Père aime ses fils et ses filles et il nous montre tout ce qu'il fait, mais il va nous montrer des œuvres encore plus grandes au grand étonnement. Je veux déclarer, je dis, de cette façon, dans les prochaines semaines, je vais les faire imprimer. Pendant que j'étais en vacances, j'ai eu cette pensée lorsque je priais là-dessus. Je veux faire imprimer des T-shirts. On va tous à un moment donné porter un T-shirt où c'est écrit « J'étais là ». J'étais là, Nouvelle Vie, 2019-2020. Moi, j'aime ça être là. Je n'ai pas les moyens d'être partout ce que je voudrais être, mais il y a eu certains événements sportifs, j'ai réussi à avoir un billet. Lorsque Sakou Koivu est revenu, j'étais là. Lorsque tel moment est arrivé, j'étais là. Je crois que dans un an, marquez mes paroles, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, si le Seigneur tarde sa venue, les gens vont dire, « Hey, 2019-2020, à Nouvelle Vie, j'étais là. » Dieu avait fait des grandes œuvres avant, mais il en a fait des encore plus grandes. Il y a de plus grands miracles de provision, plus grands miracles de guérison, plus grands miracles de délivrance, plus grand miracle de témoignage, plus grand miracle d'influence, plus grand miracle de lumière. J'étais là! Vous le voyez applaudir et dire j'étais là! J'étais là! Je l'ai vécu! Maxwell dit, quand votre objectif n'est pas plus grand que vous, il est facile de ne faire confiance qu'à vous-même. Mais quand votre objectif est plus grand que vous-même, vous avez besoin de la faveur et de la force de Dieu. Ce que Dieu nous a appelés à accomplir ensemble est infiniment, dans ma propre vie personnelle, ainsi qu'ensemble, est infiniment plus grand que nous-mêmes. Comme le Fils, je pense comme Jésus. Je ne peux rien par moi-même, mais je peux tout par celui qui me fortifie et me donne force et victoire. Littéralement, je suis toujours conscient de sa présence et je dépends de sa puissance. Dernier texte de l'avant-midi. Regardez, on est à quelques jours, quelques semaines de Pâques dans Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Priez comme Jésus afin de pouvoir penser comme Jésus et d'être renouvelé dans la puissance et la dépendance à la présence et à la puissance de Jésus. À différents moments et jusqu'à la toute fin, c'est le Fils qui dépend dans son modèle, tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés, qui vient nous montrer comment penser. Et Jésus est dans un état de totale dépendance de la présence et puissance de Dieu à travers toutes les saisons. Et l'ultime est probablement à ce moment, juste avant la croix, à Gethsémané. C'est le lieu. Le mot Gethsémané veut dire pression, le pressoir. C'est un jardin qui existe encore aujourd'hui, que j'ai visité plusieurs fois en Israël. J'ai prié sous certains des arbres qui étaient là, depuis, qui sont là depuis 1000 ans, qui sont là depuis... Et à l'endroit où Jésus a prié, à Gethsémané, avant le tourbillon de la croix, dans Luc chapitre 22, et au verset 38, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent, et lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez. » La dépendance se manifeste par « Je prie. » Jésus, penser comme Jésus, c'est prier. C'est « Seigneur, je suis en prière, c'est toi qui vas me donner la force, c'est toi qui vas me... » prier afin de ne pas tomber en tentation, puis s'éloigner à deux distances d'environ un jet de pierre. Ils étaient tellement près de lui, un jet de pierre. Il s'étant mis à genoux, il pria. Il disait, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'était possible que cette coupe, la crucifixion, la torture, la mort, la honte, c'était possible de l'éloigner. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Et regarde bien le combat. Un ange lui apparut du ciel et le fortifia. Mais il est en agonie. Il priait plus instamment, plus passionnément, plus dramatiquement. Il priait plus désespérément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Quelle expression! Endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Lorsque je pense comme Jésus, je suis toujours conscient de sa présence et je dépends de sa puissance. Dans tous les moments de ma vie, mais dans les Gethsémané en particulier, les moments de pression. Est-ce que vous avez compris dans le royaume de Dieu que les moments de plénitude sont souvent précédés par des moments de pression? Et dans ce moment de pression, tout l'enfer est déchaîné contre lui. Jésus pensait comme Jésus, les disciples le suivaient, nous. Notre thème est suivre Jésus. Les disciples, nous avons lu, le suivaient. Il leur dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Ils étaient, je ne sais pas, j'ai regardé différentes sources dans différents commentaires bibliques, ils parlaient de quelques mètres. L'expression « un jet de pierre » voulait dire, c'est à côté, c'est pas lancer le plus loin que tu peux, c'est comme tu fais ça comme ça. Le point qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient tellement proches de Jésus en agonie qui priait pour la puissance et le ciel qui vient le fortifier, mais eux se sont endormis. Il est possible pour nous, de marcher. Jésus est prêt, tout prêt, est à côté de nous. Et il est aussi possible pour nous de côtoyer, d'être dans un lieu qui a été bâti par des hommes et des femmes qui ont prié et qui ont toute leur vie, leur dépendance a été sur la puissance de Dieu. Et nous, d'être arrivé à un moment où spirituellement, nous sommes endormis par la tristesse. Et il y a quelque chose de très, très proche de vous et moi là-dedans. Il y avait l'agonie et la frayeur. Il pria encore plus d'intensité et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. C'est un phénomène médical qui est documenté. J'ai demandé à Dr. Ben Aguila, qui travaille avec moi, qui est un docteur en biochimie, de rechercher ça pour moi. Hématidrose et le phénomène de la sueur qui peut se transformer avec toutes sortes de foutoirs. Dépression, stress violent, trouble panique, stress intense, une constriction des vaisseaux sanguins. Mon père, dans la foi, David Wilkerson, m'avait déjà raconté que dans un moment où quelqu'un très, très, très près de lui, dans l'église, s'était tourné contre lui et avait levé une division contre eux, ça avait duré pendant un an. Ça avait tellement déchiré cet homme de foi qu'un matin, il s'est levé et sa femme, il s'est endormi en priant et en pleurant. Puis lorsqu'il s'est réveillé le matin, son épouse s'est mise à crier. Il avait les yeux, le blanc des yeux, bloodshot, complètement, les yeux comme s'il avait été frappé. Il s'est rendu à l'hôpital, le médecin dit, vous avez eu un accident d'auto, vous êtes frappé, vous êtes fracassé à la tête. Non, non, c'est juste la pression intérieure. Et Jésus, dans ce moment de pression intérieure, appelé au Père, est en prière, encore plus instamment, avec quelque chose de tellement surnaturel qui a pris place. La Bible nous dit qu'un ange du ciel est venu le fortifier. Je veux dire à chaque croyant en 2019, le ciel est encore désireux de me fortifier dans mon épreuve. Je peux dire, après presque 40 ans de marche avec Dieu, que le ciel vient encore par le Saint-Esprit de Dieu. Sa puissance vient encore. Jésus veut encore dans ton Gethsémané et le mien. Je vais chercher les meilleurs conseils peut-être de tous, mais lorsque j'arrive, regarde. Lorsque j'arrive à ce que je ne suis pas capable de faire par moi-même, je ne suis pas capable de relâcher ça par moi-même, je ne suis pas capable de pardonner par moi-même, je ne suis pas capable de croire par moi-même, je ne suis pas capable de secouer ça par moi-même. Il pria et le ciel, les anges du ciel, vinrent le fortifier. Pensez comme Jésus, c'est Seigneur, lorsque dans le pressoir j'en étouffe, Seigneur mon Dieu, ta présence va me fortifier, ta présence va me calmer, ta présence va me soutenir, ta présence va me relever, ta présence va me restaurer. Quelqu'un devrait applaudir. La présence de Dieu. Ta présence va venir faire son œuvre, mais à côté, les disciples étaient, et c'est une expression tellement puissante, je l'ai lu bien des fois auparavant, ça fait 40 ans que j'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu comme ça. Il se leva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Et il est possible pour nous, à travers certaines épreuves de tristesse, surtout prolongées, surtout accumulées, de continuer à fonctionner, mais on s'est endormi spirituellement. Vous avez vu la semaine dernière à Belœil, il y a un incendie qui faisait rage, une maison qui était en train de brûler, qui était complètement décimée. Puis il y a une jeune femme dans notre église qui est ici, dont son père était dans l'appartement 1, était sauvé dans l'appartement 1 de ce bâtiment-là. Puis il y a deux jeunes filles qui se promenaient, qui ont passé en voiture. Zoé et Lauriane ont passé, puis on s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On a lu dans le journal, ils vont avoir des médailles d'honneur. On commençait à la cogner à chaque porte, à les littéralement réveiller les personnes qui étaient en train de périr sans le savoir. Jésus vient à moi et à toi ce matin. Puis si tu veux penser comme moi, réveille-toi. Peut-être que tu étais endormi spirituellement par la tristesse, endormi par la fatigue spirituelle, endormi par l'épreuve, endormi par ce que tu as vécu. Mais réveille-toi, levez-vous, de peur que tu tombes dans la pire tentation. Et la pire tentation, c'est celle d'arrêter de prier, d'arrêter de croire. D'arrêter de dire « Tu es tout-puissant ». D'arrêter de dire « Il n'y a rien qui est impossible à toi ». La pire tentation, c'est de laisser, de garder nos larmes et de les laisser devenir amères en nous, un poison qui nous vide de notre marche avec Dieu. Et Jésus a pris ses larmes, sa sueur qui s'est transformée en sang. Il l'a remis au Père. Et alors qu'il a remis au Père dans la présence, je suis conscient de ta présence et je dépends de ta puissance. Fortifié, il se leva dans d'autres versions, d'autres des évangiles. C'est essuie les yeux. Levez-vous maintenant. Venez. Il était fortifié. Il était rempli de... Parce qu'il a refusé de retenir ses larmes. Peut-être avait-il été... C'est sûr qu'il l'a, c'est lui qui était le modèle. Mais peut-être avait-il été même inspiré par une simple femme qui le suivait. Pendant que les musiciens vont s'approcher et me rejoindre, j'arrive à la fin. On est juste quelques chapitres auparavant, dans Luc chapitre 7. Voici une femme se tenait, verset 38, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Moi, je dois vous avouer que toute ma vie, depuis 40 ans que je lis la Bible, souvent, il y a des choses qui ont juste comme pas de sens pour moi. Je n'y prends pas pour... J'essaie de comprendre. Puis pour moi, je n'ai jamais créé ça à personne. Je n'ai jamais fait de... Je ne savais pas promener avec une pancarte de protestation, mais je ne comprenais pas comment ça se... Je ne veux pas être vulgaire ou être ridicule, mais je ne comprenais pas comment ça se faisait, ça. Tu sais, elle mouillait. C'est quoi? Elle s'est approchée, puis elle s'est mise... Tu sais, je ne veux pas être moqueur, mais c'est quoi? Elle s'est mise à y frotter les pieds avec ses larmes. C'est comme une drôle de scène. Elle lui mouilla les... Puis il y a d'autres textes comme ça dans la Bible que j'ai lus, là. Puis faites pas ça, regardez-moi pas comme ça. Ah, comme des pharisiens. Il y en a beaucoup ici que vous lisez les affaires, puis vous dites, « I don't get that. Anyway, gloire à Dieu, on continue. » Non, mais il y a une femme, j'ai un des livres que j'apprécie plus dans ma bibliothèque, là, vous pourrez le commander, j'ai pas de commission sur ce livre-là. Mais c'est un livre, si vous lisez dans la dessin, c'est un livre extraordinaire qui s'appelle « Strange Scriptures that Perplex the Western Mind ». C'est textes bibliques étranges qui rendent l'Ouest, nous, à l'Occident, perplexes. Parce qu'on est dans une autre culture. C'est décrit par le Dr. Barbara Bowen. Elle est historienne, archéologue, spécialiste en coutumes et cultures du Moyen-Orient. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre sur « Elle lui mouilla les pieds de ses larmes ». Et elle donne cette explication historique, vérifiée par l'archéologie. C'est un fait historiquement connu qu'au temps de la Bible, dans la culture du Moyen-Orient, une tradition voulait que lorsque quelqu'un mourait, les larmes de ceux qui étaient dans le deuil étaient recueillies dans une outre. Une urne, une bouteille. Des milliers de ces bouteilles ont été retrouvées chez les riches et les pauvres, dans des tombeaux, sarcophages et dernières découvertes archéologiques modernes, alors que les bouteilles en verre ou en argile étaient souvent enterrées avec la personne décédée. C'est pour ça que vous disiez dans la Bible qu'il y avait des pleureuses. Des pleureuses étaient même souvent engagées et payées au volume. J'espère ne pas avoir à engager du monde. À ma funéraille, que ma femme va toujours engager des gens. Là, il y a un petit côté romantique, tout le monde, les dames, les gars romantiques. Des épouses, fiancées ou mères d'hommes partis à la guerre accumulaient leurs larmes dans des bouteilles remises aux soldats qui revenaient du champ de bataille. Oh, que chérie, comment j'ai pleuré pour toi. Faites un beau. Oh, et que c'est beau. Ces bouteilles étaient extrêmement précieuses et sacrées pour les familles. Elles représentaient l'héritage de tragédie. La somme des souffrances d'une vie. C'est pour ça que le psalmiste n'a pas seulement dit « Tous mes jours sont comptés dans ton livre. Tu connais toutes les œuvres que tu as préparées pour moi. Bien avant même qu'elles existent, tu les appelles. » Non, il est encore plus proche, plus personnel, plus réaliste que ça. Il dit au psaume 56 « Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Mes larmes ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Penser comme Jésus. Je pense comme Jésus lorsque je sais qui je suis. Et j'ai confiance dans les plans que le Père a pour moi. Et je pense comme Jésus lorsque je marche à tous les jours conscient de sa présence et dépendant de sa puissance pour me libérer, alors que je relâche mes larmes, mes déceptions. Mais je ne comprends pas. Mais comment ça se fait que c'est arrivé comme ça? Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne crois pas qu'elle est allée se frotter les yeux sur ses pieds. Je pense qu'elle est allée verser ses larmes. Verser son passé. Verser ses peurs. Verser ses inquiétudes. Verser ses limites. Verser les regrets. Verser les angoisses. Et comme Jésus, le ciel est venu l'apaiser, la fortifier et la rendre capable maintenant d'accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelée. Elle mouilla ses pieds de ses larmes. Elle relâcha son passé à ses pieds et la puissance de Dieu vient la soutenir, la fortifier et lui permettre de dire « Je suis maintenant celle qui va accomplir la volonté de Dieu dans ma vie et que ceux qui veulent suivre Jésus avec moi disent un dernier grand Amen. » Voulez-vous applaudir avec moi?